Allô, allô.
Allô, allô, allô.
C'est André Gide.
Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait bon temps là-bas sous ton ciel?
Qui vous téléphone? Qui vous parle de la Côte d'Azur?
Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain.
Bonsoir, mon cher Philippe Soupon.
Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie?
Pour cette nouvelle émission de Prosopopée, laissez-moi vous faire voyager, chers auditeurs, sur les rives de l'intranquillité, en compagnie d'un poète que j'affectionne particulièrement, j'ai nommé Fernando Pessoa. Écrivain prolifique, touche à tout, il écrit entre autres des essais, du théâtre, des fictions, des critiques et bien sûr de la poésie. Mais pour cette émission, c'est son livre de l'intranquillité, rebaptisé depuis Livre de l'inquiétude, qui a retenu mon attention et dont je m'apprête à lire ici quelques extraits. Il faut savoir avant tout que le livre de l'intranquillité est paru à titre posthume, sous forme de journal intime, composé à partir de quelques 27 000 feuillets retrouvés en vrac au fond d'un coffre en bois de camphre. Il raconte le quotidien de Bernardo Soares, double fictif de Pessoa, employé de bureau à Lisbonne. On y trouve toutes sortes de réflexions sur le monde, d'aphorismes, de pensées intimes et de rêves éveillés. Bernardo Soares, Pessoa donc, est un homme qui rêve de disparaître, non pas pour mourir. Il souhaite seulement non exister, n'être plus qu'une âme qui pourrait rêver éternellement. Il observe le monde qui l'entoure avec acuité, tout comme, avec autant de précision, il se sonde lui-même. C'est donc une balade pour le moins sombre, pessimiste même, quoique toujours sublime, que je vous propose aujourd'hui.
Will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force, still the guests can't help but watch the door. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.
When you look up,
tell me who you really love.
When you look up.
24 mars 1930. Je considère la vie comme une auberge où je dois séjourner jusqu'à l'arrivée de la diligence de l'abîme. Je ne sais où elle me conduira car je ne sais rien. Je pourrais considérer cette auberge comme une prison, du fait que je suis contraint d'attendre entre ses murs. Je pourrais la considérer comme un lieu de bonne compagnie, car j'y rencontre des gens divers. Je ne suis cependant ni impatient, ni de goût vulgaire. Je laisse à ce qu'ils sont ceux qui s'enferment dans leur chambre, amorphes, étendus sur un lit, où ils attendent sans pouvoir dormir. Je laisse à ceux qui font ceux qui bavardent dans les salons, d'où les voix et les musiques me parviennent et me frappent agréablement. Je m'assieds à la porte et j'enivre mes yeux et mes oreilles des couleurs et des sons du paysage. Et je chante à mi-voix, pour moi seul, de vagues chants que je compose tout en attendant. La nuit descendra et la diligence viendra pour nous tous. Je goûte la brise que l'on me donne et l'âme qu'on m'a donnée pour la goûter, et je n'interroge ni ne cherche davantage. Si ce que je laisse écrit sur le livre des voyageurs peut, relu quelques jours par d'autres que moi, les distraire eux aussi durant leur séjour, ce sera bien. S'ils ne le lisent pas ou n'y trouvent aucun plaisir, ce sera bien également. J'ai demandé si peu à la vie, et ce peu lui-même, la vie me l'a refusé. Un rayon d'un reste de soleil, la campagne, un peu de calme avec un peu de pain, une conscience d'exister qui ne me soit pas trop douloureuse, et puis ne rien demander aux autres, ne rien me voir demander non plus. Cela même m'a été refusé. De même qu'on peut refuser une aumône, non par manque de cœur, mais pour éviter d'avoir à déboutonner son manteau. J'écris, plein de tristesse, dans ma chambre paisible, seul comme je l'ai toujours été, seul comme je le serai toujours. Et je me demande si ma voix, en apparence bien peu de choses, n'incarne pas la substance de milliers de voix, la fin de se dire de milliers de vies, la patience de millions d'âmes soumises, comme la mienne, à leur destin quotidien, à leur rêve inutile, à l'espérance qui ne laisse pas de traces. En de tels moments, mon cœur bat plus fort, conscient que je suis de son existence. Je vis plus car je vis plus grand. Je sens dans ma personne une force religieuse, une sorte de prière, presque une clameur. Moi, ici, ni plus, ni moins. Je suis donc ainsi fait, futile et sensible, capable d'élan fougueux qui m'absorbe tout entier, bon et mauvais, noble et vil, mais jamais d'un sentiment durable. Jamais d'une émotion qui persiste et qui pénètre la substance de l'âme. Tout en moi tend à être aussitôt autre chose. Une impatience de l'âme contre elle-même, comme on peut l'avoir contre un enfant importun. Une intranquillité toujours plus grande et toujours semblable. Tout m'intéresse, rien ne me retient. Je m'applique à toute chose en rêvant sans cesse. Je fixe les moindres détails de la mimique faciale de mon interlocuteur. Je remarque des inflexions millimétriques dans les phrases qu'il prononce. Mais alors même que je l'entends, je ne l'écoute pas. Je pense à toute autre chose, et ce que je me rappelle le moins de notre conversation, c'est justement ce qui s'y est dit d'un côté ou de l'autre. C'est ainsi que, bien souvent, je redis à quelqu'un ce que je lui ai déjà dit, lui pose à nouveau une question à laquelle il a déjà répondu. Mais je peux décrire en quatre mots photographiques l'expression des muscles de son visage au moment où il m'a dit ce que j'ai totalement oublié, ou sa tendance à n'écouter que des yeux le récit que je ne me souvenais pas lui avoir déjà fait. Je suis deux, et tous deux gardent leur distance, frères siamois que rien ne rattache. Mars 1929. Me trouvant oppressé aujourd'hui, jusque dans la sensation physique de mon corps, par cette anxiété trop bien connue qui parfois déborde, j'ai assez mal mangé et bu moins que de coutume dans ce restaurant, ou ce petit bistrot, dont l'entresol assure la continuité de mon existence. Au moment où je sortais, le garçon s'aperçut que ma bouteille était demeurée à demi-pleine. Se tournant vers moi, il me dit « À bientôt, monsieur Suarez, j'espère que ça ira mieux ». Cette simple phrase résonna pour moi comme un coup de clairon. Mon âme s'éclaira subitement comme un ciel balayé par le vent se voit soudain dégagé de ses nuages. Et je m'aperçus alors d'une chose que je n'avais jamais vue bien clairement. Que chez les garçons de café ou les serveurs de restaurants, chez les coiffeurs ou les petits coursiers postés au coin des rues, je rencontre une sympathie spontanée, naturelle, que je ne peux guère me vanter de trouver chez ceux que je fréquente avec une plus grande intimité, si l'on peut dire. La fraternité a de ses subtilités. Les uns gouvernent le monde, les autres sont le monde. Entre un millionnaire américain abritant sa fortune en Angleterre ou bien Lénine et un leader socialiste de village, nulle différence de qualité, seulement de quantité. Loin au-dessous, nous, les gens informes, nous, le dramaturge bohème William Shakespeare, le maître d'école John Milton, le vagabond Dante Alighieri, le coursier qui m'a fait une commission hier, le coiffeur qui me raconte des histoires drôles ou le serveur qui vient d'avoir envers moi un geste fraternel en me souhaitant une meilleure santé, simplement parce que je n'avais bu que la moitié de ma bouteille de vin. 13 avril 1930. Le silence qui naît du bruit de la pluie s'éparpille, avec un crescendo de monotonie grisâtre dans la rue étroite que je contemple. Je dors tout éveillé, debout contre la vitre à laquelle je m'appuie comme à toute chose. Je cherche en moi quelle sensation j'éprouve devant cette chute effilochée d'une eau obscurément lumineuse qui se détache sur les façades sales et, plus encore, sur les fenêtres grandes ouvertes. Et je ne sais ni ce que j'éprouve, ni ce que j'ai envie d'éprouver. Je ne sais ni ce que je pense, ni ce que je suis. Toute l'amertume à retardement de ma vie se dépouille sous mes yeux vides de toute sensation, du costume de gaieté naturelle qu'elle revêt dans les occasions fortuites, sans cesse renouvelées de la vie quotidienne. Je constate, moi, si souvent d'humeur joyeuse et si souvent content de mon sort, que je suis toujours triste. Et celui qui en moi fait ce constat se trouve en fait derrière moi, semble se pencher sur mon corps, appuyé à la fenêtre, et regarder par-dessus mon épaule ou ma tête, avec des yeux plus intimes que les miens, la pluie lente, légèrement ondulée déjà, qui raye de sa chute en filigrane l'air sombre et mauvais. Négliger tous ses devoirs, même ceux que personne n'exige jamais de nous, répudier tous les foyers, même ceux que l'on n'a jamais eus, vivre de flou et de vestiges parmi de lourdes draperies de folie pourpre et les fausses dentelles de majesté rêvée. Être quelque chose qui ne sente pas la tristesse de la pluie extérieure ni la douleur de ce vide intime. Errer, sans âme ni pensée, sensation dépouillée d'elle-même par des routes contournant des montagnes, par des vallées encaissées entre des pentes escarpées et passé lointain, absorbé et fatal. Se perdre dans des paysages semblables à des tableaux. Un non-être dilué en lointain et en couleur. Un léger souffle de vent, que je ne peux sentir derrière ma fenêtre, déchire en dénivellement aérien la chute rectiligne de la pluie. Quelque part s'éclaircit un coin de ciel que je ne vois pas. Je m'en rends compte parce que, derrière les vitres à moitié propres de la fenêtre d'en face, j'aperçois déjà vaguement à l'intérieur le calendrier suspendu au mur que je ne pouvais voir jusqu'à présent. J'oublie tout. Je demeure sans voir et sans penser. La pluie cesse, et il en reste un instant une poussière de diamants minuscule, comme si, de là-haut, on secouait des miettes d'une grande nappe azurée. On sent qu'une partie du ciel est maintenant dégagée. On voit plus nettement le calendrier à travers la fenêtre d'en face. Il représente un visage de femme, et pour le reste, c'est facile parce que je le reconnais et qu'il s'agit d'une pâte dentifrice archi connue. Mais à quoi pensais-je donc avant de me perdre ainsi à regarder ? Je ne sais. Volonté ? Effort ? vivre. Sous une grande percée de lumière, on sent que c'est presque tout le ciel maintenant qui est bleu. Mais nulle paix, ah, je ne la connaîtrai jamais, au fond de mon cœur. Ce vieux puits, au fond du domaine qu'on a vendu. Souvenir d'enfance enfermé sous la poussière dans le grenier d'une maison devenue étrangère. Nulle paix, non. Mais pas davantage, hélas, le moindre désir de la connaître. Avril 1930. Le principal actionnaire de la compagnie, qui souffre toujours de quelque part, pris soudain de je ne sais quelle lubie, dans l'intervalle de je ne sais quelle maladie, a voulu avoir un portrait de groupe des employés du bureau. C'est ainsi qu'avant-hier, nous nous sommes tous alignés sur les indications d'un photographe à l'humeur enjouée, contre la rambarde d'un banc sale qui sépare de son bois fragile la grande salle du petit bureau du patron Vasquez. Au milieu, Vasquez en personne. Aux deux ailes, en suivant une répartition d'abord bien définie puis indéfinie des diverses catégories présentes, les autres êtres humains qui se retrouvent ici tous les jours, en chair et en os, et poursuivent des buts étriqués dont le sens ultime est un secret connu des dieux seuls. En arrivant aujourd'hui au bureau, un peu en retard et, à vrai dire, ayant déjà oublié l'épisode statique des deux photographies qu'on avait prises, j'ai trouvé un Morera exceptionnellement matinal et l'un de nos représentants penché avec délectation sur des choses noirâtres que j'identifiais aussitôt, avec émotion, comme les premières épreuves. Il n'y en avait en fait que deux tirages d'une seule photo, la plus réussie. J'ai subi un choc de la vérité quand je me suis vu là, puisque naturellement c'est moi que j'ai cherché en premier lieu. Je ne me suis jamais fait une très haute idée de mon aspect physique, mais jamais je ne l'avais vu aussi nul que sur cette photo. En comparant ma figure aux autres, connues par cœur, dans cet alignement d'êtres tellement quotidiens, j'ai l'air d'un jésuite fruste. Mon visage, maigre et sans expression, n'a pour lui ni intelligence, ni intensité, ni quoi que ce soit qui le hisse au-dessus des eaux stagnantes des autres visages. Les eaux stagnantes, que non ! On trouve là des visages réellement expressifs. Le patron Vasquez est parfaitement rendu avec sa large figure, joviale et dure, son regard ferme et sa moustache rigide complétant le tableau. L'énergie, l'astuce de l'homme, si banale en somme et répétée à des milliers d'exemplaires à travers le monde, sont néanmoins inscrites sur cette photo comme sur un passeport psychologique. Les deux représentants sont admirables. Le caissier est bien également, mais il se trouve à moitié caché derrière l'épaule de Morera. Et lui, Morera. Mon chef Morera, quintessence de la monotonie, de la continuité, est infiniment plus vivant que je ne le suis. Même le garçon de bureau, je m'en fais la remarque sans pouvoir réprimer un sentiment dont j'espère que ce n'est pas de l'envie, même lui possède des traits affirmés, une expression directe qui domine infiniment de son franc sourire mon insignifiance, ma nullité de sphinx de bazar. Mais que veut dire tout cela ? Quelle est donc cette vérité qu'une simple pellicule ne peut dissimuler ? Quelle est donc cette réalité dont un froid objectif peut témoigner ? Qui suis-je pour être ainsi ? Et pourtant, mais cette insulte de l'ensemble ? Vous êtes très réussi, me dit soudain Morera. Et il ajouta en se tournant vers le caissier : c'est notre petit camarade tout craché, hein ? Et l'autre d'approuver avec une bonne humeur amicale qui m'envoyait à la poubelle. 15 mai 1930. Je n'ai jamais rien fait que rêver. Cela, et cela seulement, a toujours été le sens de ma vie. Je n'ai jamais eu d'autre souci véritable que celui de ma vie intérieure. Les plus grands chagrins de mon existence se sont estompés dès lors que j'ai pu, ouvrant la fenêtre qui donne sur moi-même, m'oublier en contemplant son perpétuel mouvement. Je n'ai jamais voulu être rien d'autre qu'un rêveur. Si l'on me parlait de vivre, j'écoutais à peine. J'ai toujours appartenu à ce qui n'est pas là où je me trouve et à ce que je n'ai jamais pu être. Tout ce qui n'est pas à moi, si vil que cela puisse être, a toujours eu de la poésie à mes yeux. Je n'ai jamais aimé que rien. Je n'ai jamais souhaité que ce que je ne pouvais même pas imaginer. Je n'ai jamais demandé à la vie que de m'effleurer sans que je la sente passer. Je n'ai jamais rien demandé à l'amour que de rester toujours un rêve lointain. Jusque dans mes paysages intérieurs, tous parfaitement irréels, c'est toujours le lointain qui m'a attiré. Et les aqueducs qui allaient s'estompant presque à l'horizon de mes paysages rêvés avaient une douceur de rêve comparée aux autres parties du paysage. Et c'était justement cette douceur qui me les faisait aimer. Il m'arrive, quand je relève la tête, encore tout étourdi, des livres où j'inscris les comptes des autres et l'absence pour mon compte de toute vie propre, d'éprouver une nausée physique qui peut provenir de ma position inclinée, mais qui transcende aussi les chiffres et mon sentiment d'échec. La vie m'écœure comme un remède inutile. Et c'est alors que je vois, avec une vision d'une parfaite netteté, combien il me serait facile de chasser cet ennui si j'avais simplement la force de le vouloir réellement. Nous existons par l'action, c'est-à-dire par la volonté. Ceux d'entre nous qui ne savent pas vouloir, génie ou mendiant, peu importe, ceux-là se retrouvent frères dans l'impuissance. À quoi me sert-il de me proclamer un génie si je me retrouve aide-comptable ? Agir. Voilà l'intelligence véritable. Je serai ce que je voudrais être. Mais il me faut vouloir être ce que je serai. La réussite consiste à réussir et non pas se trouver en mesure de réussir. N'importe quel terrain un peu vaste est propre à recevoir un palais. Mais où donc sera le palais si on ne le bâtit pas sur ce terrain ? Agir, c'est connaître le repos. À bientôt pour une nouvelle émission de Prosopopée. Vede, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.